Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour le débat. Nous parlons aujourd'hui de l'engrenage de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. L'arrivée des premiers soldats de la force africaine n'a pas empêché la reprise des combats. On parle d'un nouveau massacre à Kishishe et les discussions sont toujours complètement bloquées. Le M23 ne veut céder à aucune des conditions de Kinshasa et les autorités congolaises ne veulent pas discuter sans des gestes préalables. Alors, quelle solution aujourd'hui? On en parle jusqu'à 10h, heure de Paris. Et vous pouvez aussi nous écrire pour alimenter le débat sur les réseaux sociaux. Pour commencer, on accueille Justin en ligne de Kinshasa. Bonjour Justin.
Bonjour madame.
Il y avait des marches hier à l'appel de l'Église catholique. Vous avez participé, vous, à la marche qui était organisée? Enfin, il y en avait plusieurs même dans la capitale congolaise. Vous y étiez?
Oui, nous avons préparé aux marches et... Nous avons été là avec beaucoup d'enthousiasme.
Justin, vous nous parliez de cette marche. Qu'est-ce qui vous a motivé et quel message vous vouliez faire passer?
Oui, la motivation est certaine. Le message est que tous les Congolais ne veulent plus de la balkanisation, du plan de balkanisation de la RDC. Les Congolais ne veulent plus que l'on touche à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Voilà pourquoi nous avons marché hier pour dénoncer cette agression barbare de notre voisin, le Rwanda, mais aussi de dénoncer l'hypocrisie et cette attitude complice de la communauté internationale vis-à-vis de la situation qui prévaut en RDC.
Alors vous parlez du Rwanda qui est accusé par Kinshasa de soutenir le M23. Les Nations Unies avaient aussi rédigé un rapport parlant de soutien au M23 il y a quelques mois. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, il y a encore une chance pour la voie diplomatique?
Je crois que pour le moment, la diplomatie a été notre point de départ. Le président de la République et beaucoup de nos autorités, tant religieuses que politiques, avaient souhaité que nous puissions aller par la diplomatie. Mais nous nous sommes rendus compte que la diplomatie n'était pas le langage qui était écouté par les rebelles ou les gens qui devraient discuter avec nos autorités. Et tout le peuple congolais est unanime pour que la diplomatie ne soit plus de mise, que nous puissions parler avec le langage écouté par notre interlocuteur, ça veut dire le langage de force, que nous utilisions nos forces armées. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes ont répondu à la mobilisation du président de la République pour que nous puissions répondre et que le rapport de force soit égal.
Alors Justin, le problème n'est pas nouveau. Que pourraient faire aujourd'hui les militaires congolais qu'ils n'auraient pas déjà eu l'occasion de faire avant?
Le problème, c'est que nous étions en train de chercher des moyens. Nous devions chercher des armes, et puisque les rebelles étaient lourdement armés par un gouvernement policier, un gouvernement voyou du Rwanda, et c'est tout le monde qui le dit, soutenu par la communauté internationale. Dernièrement, vous avez lu, même à travers le Twitter de Mme Maria Arena, la députée européenne, qui ne comprend pas pourquoi l'Union européenne envoie 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, alors que la même armée est accusée d'atrocités en RDC.
20 millions d'euros, ça a été approuvé la semaine dernière. C'est une somme qui doit permettre la poursuite du déploiement des troupes rwandaises au Mozambique.
Oui, mais le bénéfice est collatéral. Même si on doit déployer les forces de l'autre côté, c'est l'armée qui est aguerrie, c'est l'armée qui est formée, c'est l'armée qui a des moyens.
Mais cette décision, Justin, cette décision, effectivement, elle a été dénoncée donc par... y compris au sein du Parlement européen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager donc votre opinion sur la situation et sur les solutions à mettre en œuvre pour essayer d'en sortir. Je vous lis le commentaire d'un auditeur qui se trouve à Rutshuru, donc une zone sous contrôle du M23. Voilà ce qu'il nous dit. La solution à présent est que notre gouvernement dialogue avec le M23, car ce mouvement a déjà occupé une grande partie de territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Notre armée a déjà échoué pour combattre le M23. Même la force est-africaine ne fera rien, car la MONUSCO elle-même n'a rien fait pendant plus de 20 ans pour protéger la population contre les groupes armés. On va rester dans l'est de la République démocratique du Congo, direction Goma, où nous attend Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Le M23 se trouve à quelques kilomètres de Goma. Quelle est la situation aujourd'hui pour vous dans la ville?
Bon, jusqu'à là, la situation reste toujours la même. On observe cette même situation depuis 3 semaines. Donc, je pense que les FADC arrivent quand même à contenir ces assauts-là des M23. Jusqu'à là, la ville de Goma n'est pas encore menacée.
Et comment se passe le quotidien? Est-ce que des produits arrivent quand même dans la ville? Est-ce que la circulation fonctionne, par exemple?
Difficulté. Au niveau de la ville de Goma, la circulation fonctionne, mais la ville de Goma est alimentée par des localités parmi d'autres villes qui alimentent la ville de Goma, par exemple la ville de Beni, de Butembo, donc c'est difficile. Comme je vais vous parler peut-être de certains produits de première nécessité, on observe une hausse de prix ici, donc c'est vraiment difficile pour la situation, surtout à l'approche des fêtes de fin de l'année.
Alors vous nous disiez que pour l'instant, a priori, l'armée avait réussi à contenir l'avancée du M23. Quelle est la solution maintenant pour mettre fin à ce cycle de violence et faire reculer le M23 selon vous?
Bon, moi je pense que comme tout le monde l'a dit, le gouvernement congolais avait manifesté cette bonne volonté de dialoguer afin de trouver un bon consensus pour mettre fin à ces conflits. Mais apparemment, le rebelle ne comprend pas ces langages. Donc moi je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, essayer d'outiller plus l'armée afin de... Bon, moi je compte plus sur les FRDC, parce que nous ne savons pas ce que la force de l'Est d'Afrique peut venir faire si la MONUSCO que nous avions ici pendant plus de 20 ans n'a pas réussi à éradiquer tous ces groupes armés. Donc je ne compte pas vraiment sur ces groupes-là. Moi, je pense que notre armée donc, a besoin de plus de moyens pour essayer un peu d'éradiquer tous ces groupes rebelles, pas seulement les M23.
Et qui pourrait l'aider à avoir plus de moyens et à être mieux outillé, comme vous nous le disiez? Est-ce que ça se passe uniquement au niveau congolais? Est-ce que ça se passe au niveau régional, selon vous? Ou bien vous attendez un soutien de la communauté internationale?
Non, en tout cas, moi, on remet notre essor à nous-mêmes, Congolais. On doit prendre la conscience. Donc, c'est-à-dire, le président a lancé un appel. Tout Congolais doit savoir que c'est le pays qui est menacé. C'est l'intégrité de la RDC qui est menacée. Nous devons nous prendre en charge, comme disait autrefois Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Donc parce que l'hypocrisie de la communauté internationale, tout le monde aujourd'hui est en train de les vivre. Donc nous devons nous prendre en charge. Les Congolais doivent savoir se prendre en charge aujourd'hui.
Merci beaucoup Christian d'avoir été en ligne avec nous de Goma pour nous parler donc de cette situation qui perdure, du risque qui augmente, et puis de vos solutions, donc miser sur une solution congolaise et sur l'armée. Je vous lis le commentaire que nous a laissé un auditeur qui habite à Matadi. Lui nous dit « La seule solution, c'est de créer un tribunal spécial contre les crimes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo pour sauver la vie humaine. Nous, les Congolais et Congolaises, nous sommes prêts à prendre les armes. » Donc ça rejoint ce que vous nous disiez, Christian, sur une volonté de tous de se mobiliser. Bonjour Charles.
Bonjour à tous les collègues RFI.
Vous êtes en ligne de Lubumbashi. Est-ce que vous partagez ce qu'on vient d'entendre?
Oui, parfaitement. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse finalement prendre les choses au sérieux. L'M23 qui ne veut pas entendre la voie diplomatique. L'M23 veut à tout prix la guerre. Et donc, le gouvernement congolais doit finalement s'engager dans cette voie pour pouvoir finalement les mettre dehors. Tous les efforts qui ont été fournis bien avant, avec tous les sommets autour de cette question, apparemment, ils veulent tout simplement poursuivre avec la guerre. Alors, il faut que l'État congolais mettre tous les moyens qu'il faut pour attaquer l'M23 et les bouter dehors. Je vous rappelle ici que l'M23, ça a été un mouvement, c'est un ancien mouvement qui a déjà été bouté dehors par les passés. Donc il faut maintenant des nouvelles stratégies, comme c'était l'autrefois, et notre armée, c'est une armée qui demeure puissante. Moi, je ne veux pas rentrer dans tout ce que les gens racontent là, que notre armée est faible. Non, notre armée est très puissante. Il suffit de monter des stratégies militaires et nous pouvons vaincre cette guerre, parce que nous l'avons déjà vaincue une fois.
Alors c'était en 2013, comme vous nous le rappelez Charles, mais depuis, Le M23, en fait là, le M23 explique qu'il a repris les armes parce que ce qui avait été décidé à ce moment-là, donc concernant le processus de réinsertion, n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'on peut prévoir aujourd'hui en admettant que l'option militaire fonctionne, qu'on arrive à faire reculer le M23, à amener les rebelles à déposer les armes et à cesser les combats? Qu'est-ce qu'on prévoit pour que tout ne recommence pas dans 5 ans, dans 10 ans?
Oui, déjà il y a une loi au niveau du Parlement, que j'ai salué en passant, qui refuse toute intégration des groupes terroristes, des groupes rebelles dans notre armée nationale. Ce sont des erreurs qui ont été commises dans le passé et qu'on devra éviter, parce que finalement tous les groupes rebelles, tous les groupes terroristes commencent et après ils veulent intégrer l'armée nationale, voyez-vous. Alors, l'M23 dehors, et c'est fini, on ferme la page de l'histoire. On ne va plus les remettre dans l'armée, on ne va plus les intégrer dans l'armée, parce que finalement notre armée doit rester républicaine et doit avoir ses propres éléments qui sont formés dans les standards du pays, quoi. Voyez-vous, il ne faut pas que chaque groupe rebelle qui vient, qui fait des revendications, et puis lorsqu'on répond à leurs revendications, ils finissent par intégrer l'armée.
Merci beaucoup Charles. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous de Lubumbashi. Il est 8h51 en temps universel. On poursuit ce débat avec Jimmy en ligne de Kolwezi. Bonjour Jimmy.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Quelle solution selon vous aujourd'hui? La voie diplomatique, la voie militaire ou une sorte de combinaison des deux?
Anne, il faut savoir que je dois dire que moi, je suis, comme on le dit chez nous, à 100% originaire de l'Est du Congo, c'est-à-dire des pères et des mères. Nous vivons cette situation depuis plus de 20 ans. Moi, j'encourage plutôt, pour le moment, les gouvernements congolais. Je pense qu'il est nécessaire de renforcer les capacités de nos forces de défense et sécurité pour se faire respecter dans la région. Mais aussi, parallèlement, je pense que le président de la République peut inviter l'M23 sur la table des négociations pour ne plus donner des prétextes ou des passerelles au Rwanda qui, en fait, continue de nier son implication en disant que c'est un problème interne du Congo.
C'était une erreur, selon vous, de ne pas inviter le M23 au sommet de Luanda?
Je pense que c'était une erreur stratégique. Il fallait absolument soit se rattraper au sommet, aux négociations de Nairobi de la semaine dernière, les inviter, les écouter, et nous pouvons d'une manière ou d'une autre enlever au Rwanda les différentes raisons cachées qui les poussent à continuer à agresser le Congo derrière des groupes armés, pas seulement les M23, mais tous les groupes armés qui sévissent dans la partie Est et les grands nord de notre pays.
Merci beaucoup, Jimmy, d'avoir été en ligne avec nous. Alors, je vous pose peut-être une dernière question. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a commencé à discuter avec le M23, est-ce que ça veut dire que le gouvernement congolais doit être prêt à faire des concessions?
Normalement, oui, nous pouvons être prêts. Le gouvernement congolais doit être prêt à faire des concessions, mais des concessions très réfléchies. Ce n'est pas des concessions comme l'intégration des personnes dont on ne maîtrise pas certaines origines dans notre armée. Nous l'avions fait en 2003 avec les RCD Goma, les RCD KML, tous les groupes rebelles qui ont combattu les très regrettés Mzee Laurent-Désiré Kabila. Nous connaissons la suite aujourd'hui, Anne. Ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut faire des concessions, mais des concessions très réfléchies et surtout renforcer les capacités de notre armée. Sous Mobutu, si nous reculons 30, 35 ans, 40 ans, nous pouvons se rendre compte comment est-ce que ce pays était respecté. Aujourd'hui, les voisins les plus dangereux que nous avons, c'est le Rwanda, qui connaît bien la situation de l'Est, et il connaît pourquoi est-ce qu'il est toujours derrière les forces et les rebelles pour continuer à agresser la RDC. Moi, je pense qu'il faut faire des concessions, mais des concessions très réfléchies pour éviter encore de retomber dans tout ce que nous avions vécu après les accords justement signés en 2003, des dialogues intercongolais et toute forme de convention, ainsi que les accords qu'on a signés, dont on connaît la suite aujourd'hui, et qui n'ont apporté absolument aucune solution pacifique à cette partie de notre pays.
Merci Jimmy pour votre appel. Vous pouvez rester en ligne avec nous. On va accueillir un autre auditeur en ligne de Goma. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour madame.
Vous disiez au Standard que vous aussi, vous avez participé aux marches, à l'appel de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle était votre motivation en allant marcher hier?
En fait, notre motivation n'était qu'une seule. L'objectif était de montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo d'hier, ce n'est pas la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Les Congolais d'hier, ce ne sont pas des Congolais d'aujourd'hui. Nous avons appelé haut et fort à la communauté internationale de sanctionner M. Kagame. Nous ne devons pas commencer à dire que les Rwandais, c'est le régime Kagame et Kagame à la tête de ce régime qui nous menace. Il fait déjà des dizaines et des dizaines d'années. Kagame nous menace. Nous avons demandé à la communauté internationale de sanctionner Kagame, de faire appliquer la MONUSCO, de nous donner l'éclaircissement de la mission des Nations Unies au Congo.
Qu'est-ce que vous attendez, vous, par exemple, de la MONUSCO, Raymond?
La MONUSCO est là pour... Non, aujourd'hui, la MONUSCO, c'est une mission d'observation des massacres. Mais la MONUSCO n'applique pas la force sur les rebelles. D'aider, la MONUSCO ne garantit pas la sécurité aux civils. Vous avez vu des massacres de Kishisha la fois passée, commis par les M23. La MONUSCO est là toujours, ils observent. Jusqu'à quand la MONUSCO observera toujours les morts des Congolais? Ce n'est pas normal. Nous avons appelé à la communauté internationale de sanctionner Kagame et son régime. Nous avons appelé aussi aux États-Unis, à l'ONU, de nous éclaircir. La mission de sa mission ici en RDC.
Raymond, est-ce que vous pensez que la force est-africaine qui a commencé à se déployer dans l'est de la RDC va pouvoir changer la situation et avoir un rôle différent de celui de la MONUSCO que vous critiquiez à l'instant?
Aujourd'hui, on ne peut pas donner 100%, on ne peut pas donner notre avis à 100% que cette force de East Africa Community va changer la donne. Non. Parce que les Kenyans sont ici déjà. Il y a un dialogue qui se déroule au Kenya. Mais aujourd'hui, les M23 ne reculent pas. Ils avancent toujours vers la ville de Goma.
Mais le M23 dit qu'il est disposé à discuter, mais sans condition, c'est-à-dire sans accepter les préalables qui ont été fixés par le président congolais.
On ne peut pas continuer à discuter avec des groupes armés comme les M23. Les M23 n'existent pas. C'est Kagame qui nous donne, qui fait avancer son armée. Les M23 n'existent pas, madame. Les M23 a été puni et frappé en 2012. Je vous dis que c'est l'armée rwandaise qui nous agresse, ce n'est pas les M23. Et là, moi, je soutiens à 100%. Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui le Congo est à la tête, il y a un président qui dénonce, qui parle, qui donne son opinion. Donc aujourd'hui, tous les Congolais sont derrière les idées de Félix. Pourquoi? Parce que nous ne voulons plus que les M23 entrent dans notre armée.
Merci beaucoup Raymond d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une très bonne journée à Goma. Merci à tous d'avoir participé au débat. La discussion se poursuit bien sûr sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Demain, vous retrouverez Juan Gomez pour parler du Gabon où l'opposition s'organise en vue des élections de l'année prochaine. Plusieurs formations politiques appellent à une stratégie commune pour provoquer l'alternance. Pensez-vous qu'elles y parviendront? Toute l'équipe attend vos appels. Voilà pour le programme de demain. Sur l'antenne de RFI, dans une minute, un tout petit peu plus, un journal. Et juste après, vous retrouverez Caroline Paré pour Priorité Santé. Passez une très bonne journée à l'écoute de RFI.
Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Anne.
Dans 10 minutes, vous vous posez une question très utile. toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ?
Oui, la franchise, jusqu'où, si l'honnêteté et la franchise sont deux qualités largement plébiscitées, c'est pas toujours évident de savoir dans quelles circonstances il faut dire la vérité et toute la vérité. Alors en couple, entre amis, au travail, la vérité peut blesser, vexer, chacun en a fait l'expérience. Est-ce qu'il faut tout dire ? Quand est-ce qu'il faut dissimuler certaines informations ? Est-ce qu'un non-dit est un mensonge ? On attend vos témoignages et vos questions.